C'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Vante speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autres choses.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois des redis.
Génial.
Décollage immédiat pour les matinales de Bartas.
Sur le 107 FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107 ou sur radiobartas.net. Nous sommes le lundi 15 mai et il est 8h30. Au programme de cette matinale que du bon, nous sommes en plateau et en direct avec Edwige de Ferraudy, bonjour.
Bonjour.
Tu es responsable du service accueil et sensibilisation au Parc National des Cévennes, merci d'être avec nous. Et Ludmilla Curoy, bonjour.
Bonjour.
Curoy, c'est comme ça qu'on
oui,
dit.
Oui, c'est ça.
Toi, tu es chargé de production au Seine Croisée. Avec vous, on va parler de dialogue de plantes qui débute la semaine prochaine. Ce sera dans plusieurs lieux ici dans les Cévennes. Ça va être trop bien. Et puis, dans un instant, nous serons par téléphone avec Tom Crébassa pour le festival L'ADTR qui a lieu à la Grand Combe et qui commence ce mercredi du 17 au 20 mai. En dernière partie d'émission, c'est Léo qui est allé interviewer Alexandre Ribeiro, un apiculteur d'origine brésilienne installé en Lozère depuis 6 ans. Première interview en partenariat avec la Comcom et les producteurs qui seront présents au marché de Saint-Émilion. Cet été, sans transition aucune, on va se dire que ça marche. Est-ce que tu m'entends toi, Tom ?
Oui, je t'entends très bien.
Ah, magique. Bonjour Tom.
Oui, bonjour, bonjour à tout le monde, les auditeurs et auditrices de Radio Bartas.
Tu es documentariste sonore et performeur, tu fais partie des artistes et des organisateurs du festival L'ADTR. Le festival L'ADTR, ça commence ce mercredi à la Grand Combe avec un joli programme. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que ce festival et comment l'aventure a commencé? Sachant que L'ADTR, c'est un lieu d'artistes et de création, c'est ça hein?
Oui, c'est ça, on est installé à la Grand Combe, ça fait même pas un an encore, on a ouvert nos portes. On a fait l'inauguration en septembre dernier, même si on avait commencé à faire déjà des ateliers de danse et de radio à la Grand Combe l'été passé. Mmh. Et donc depuis un an, on a fait un peu lieu de résidence pour d'autres artistes dans un peu toutes les pratiques possibles. Enfin, on a accueilli, je veux dire, autant de la danse et de la radio que de la photo ou d'autres pratiques artistiques encore, du cinéma par exemple. Il y a des filles qui étaient en résidence pour préparer un documentaire. Et là, donc, on est en train de préparer depuis quelques mois notre premier festival qui se veut justement un moment de rencontre, de pratiques artistiques et surtout de marche et de découverte et de célébration de la Grand Combe, de son territoire, que ce soit en ville ou plutôt plus à la campagne du côté de Champclauson et dans la forêt autour de la Grand Combe.
C'est vrai qu'il va se passer énormément de choses et c'est très éclectique. Alors pourquoi L'ADTR ?
Eh ben L'ADTR, c'est un nom qui est venu à David Vampac, ce danseur et chorégraphe qui est à l'origine de ce projet, comme une manière de montrer un peu notre détermination. C'est une expression qu'on emploie surtout, ça vient des jeunes essentiellement, qui disent j'ai l'ADTR, je suis déter, pour dire qu'ils sont déterminés. Et voilà, on a gardé ce nom-là comme peut-être aussi un mantra pour nous-mêmes. Garder l'envie et le désir d'aller faire des choses et de rencontrer les habitants, les habitantes de la Grand Combe et faire avec elles et eux des performances, des créations et finalement ce festival quoi.
Alors évidemment il va se passer énormément de choses, commençons par le mercredi 17 puisque c'est toi qui ouvres le bal avec un parcours radiophonique, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais, ça commence donc après-demain soir.
Ça y est, c'est parti.
On fait un petit pot d'ouverture donc à 18h30 et ensuite après manger, hop, on part direct pour la première marche dans le centre-ville de la Grand Combe avec un dispositif radiophonique. Moi, j'aurai des micros. Je serai accompagné aussi pour la technique. Et l'idée, c'est de partir donc en petit groupe à la découverte de la ville pour les personnes qui la connaissent pas encore. Et l'idée, c'est donc de faire cette marche de façon collective et de faire une première approche de la ville avec donc ce dispositif-là qui va nous permettre donc d'écouter des sons, de s'écouter écoutés, nous, entre nous aussi, avec avec nos micros, tout en étant diffusés en FM. Alors, c'est de la micro-FM, hein, dans l'idée, on va être diffusé, c'est un tout petit émetteur, mais qui va nous permettre, à l'aide de plusieurs radios, de pouvoir s'écouter entre nous en s'amplifiant et en écoutant des captations que j'aurais faites ou des archives que j'aurais retrouvées sur la ville et sur ses habitants.
C'est donc un émetteur éphémère ?
Ben, c'est ça, tout à fait, ouais. C'est un petit émetteur que j'ai et donc ça va l'émission durera, bah, comme c'est indiqué, 2 heures à peu près, entre 20h30 et 22h30, mm-hmm. Avec une émission quand même très locale, mais les habitants et les habitantes pourront nous écouter sur la bande FM. La longueur d'onde sera communiquée en début de parcours, mm-hmm. et donc on émettra juste ce temps de parcours sur la bande FM. Ouais.
Alors tu l'as dit, et qu'on soit clair, c'est vraiment un festival qui est ouvert à tous les arts. Qu'est-ce qu'on pourra voir pendant ces 3 jours ? Alors, on va peut-être pas faire toute la programmation, parce que je pense que là on en aurait pour une bonne heure, mais grosso modo, est-ce que tu pourrais nous dire quelques temps forts sur ces 3-4 jours?
Ben, en gros, il y a quand même des choix qui se répètent, c'est-à-dire que les matins seront consacrés à des ateliers de pratique, essentiellement de mouvement, de danse et de marche. Les après-midi, on vous propose une marche artistique qui s'appelle AMA, qui est la dernière création de David Van Pack, qui se passe donc dans la forêt de Champclauson. Et le soir, que ce soit autour de 20h ou 18h le jeudi, ce sont des parcours dans la ville. Donc on redescend dans le centre-ville de la Grande Combe, on marche à nouveau dans la ville, selon des parcours différents à chaque fois, avec différentes stations sur lesquelles il y aura des performances de danse ou des petites projections ou des performances plus de marche dans les lieux. Parce qu'on a ouvert des lieux de la Grande Combe qui sont actuellement fermés. On a retrouvé un peu les propriétaires et on les rouvre le temps du festival pour y proposer des projections, des installations, des expositions, des performances. Mmh. Voilà, pendant la durée du festival. Et ça se clôturera le samedi soir par un bal à la berline à Champclauson.
Et alors, il y a un atelier qui a attiré mon attention et a vivé ma curiosité. C'est un atelier de pratique qui s'appelle Dérive Totale.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cet atelier ?
Alors, c'est un atelier proposé par Mathias Poisson, qui, lui, travaille beaucoup avec les cartes sensibles qu'il peint lui-même et qui propose souvent aux participants et aux participantes de ces ateliers de nouvelles manières, en fait, de se déplacer dans l'espace. Il est aussi danseur et performeur. Et c'est un artiste marcheur, et donc il a une pratique de la marche qui se veut donc artistique. Et à l'occasion des ateliers qu'il propose, eh ben il invite les participants et les participantes à découvrir de nouvelles manières de se déplacer dans l'espace avec des contraintes, avec les yeux fermés, en étant attentif à certaines perceptions de ce qui nous entoure. Et parfois, il propose ensuite de restituer ses perceptions et ses impressions sur des cartes, donc qu'on appelle sensibles, parce qu'elles se veulent plutôt représenter notre perception de notre environnement que l'environnement réel et concret. Alors là, dans l'atelier Dérive Totale, il y aura a priori pas de moment de dessin de cartes. Ça va se concentrer vraiment sur la dérive, ce qu'on appelle la dérive. À la base, c'était un concept des situationnistes qui invitaient les gens à vraiment voir la ville de notre œil en se déplaçant selon des motivations qui n'étaient pas forcément celles de la ville. Alors ça s'inscrit à l'origine dans une idée anticapitaliste, mais voilà, dans l'atelier de Mathias Poisson, c'est lui qui vous dira vraiment comment est-ce que ça va se passer. Je peux pas non plus trop vous en dire dessus.
En tout cas, ce sera le vendredi à 10h et le samedi à 10h aussi, c'est bien ça?
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Comme quoi, sachant que tout le festival est gratuit à part les ateliers où ça a pris, c'est ça, hein?
Voilà, exactement, tout est gratuit et les ateliers du matin sont à prix libre, donc... Voilà, que tu l'as bien dit.
Libre et conscient, essayons. En tout cas, ça a été vraiment un gros boulot pour vous de mettre tout ça en place.
Ah ben quand même, ouais, ben notamment pour retrouver justement les propriétaires de ces lieux fermés. Alors il y en a certains avec qui ça a été facile, d'autres avec lesquels on a toujours des surprises de dernière minute, mais bon, c'est ça aussi qui fait partie du travail, quoi, de s'implanter dans la ville de la Grand Combe, que ce soit dans n'importe quelle ville, je pense, quoi. Quand on veut faire des choses avec les gens du territoire, ça crée plein de nouvelles situations, et pour la plupart, très franchement, c'est hyper positif et plutôt facile, quoi. On a rencontré des gens super avenants et très enthousiastes à l'idée de faire ce festival. Donc on va aussi exposer des artistes de la Grande Combe qu'on a rencontrés en étant ici dans différents lieux. Si vous venez, vous aurez l'occasion de découvrir une carte de la ville qu'on a faite avec un jeune artiste de la Grande Combe de 15 ans qui représente donc la Grande Combe, tous ces lieux, parce qu'en fait on va beaucoup se déplacer dans la ville. Il y a plusieurs départs de balade dans la ville et donc voilà, cette carte pourra aussi aider à ça, quoi.
Un nouveau regard sur la Grande Combe. Le but, en tout cas, c'est vraiment un partage des valeurs que vous portez. Elles sont nombreuses, ces valeurs.
Et oui, on a, la première, c'est vraiment de se rencontrer, quoi. Quand on a envie de croiser des pratiques artistiques, c'est aussi parce qu'on a envie de faire se croiser des gens, quoi. Donc l'équipe de la DTR est resserrée autour de la pratique de la danse et de la radio, on a d'autres amis et collègues artistes qui recoupent d'autres univers artistiques, que ce soit, comme je disais, la musique, la photo, le cinéma. Mais dans l'idée, on a encore envie d'élargir ça avec des pratiques qui sont portées peut-être plus par des habitants, des gens qui sont pas nécessairement artistes, mais qui ont des choses intéressantes à dire, ou qui sont juste des personnes intéressantes à rencontrer. Et voilà, c'est vraiment le premier point sur lequel on a envie d'insister, qu'on se veut aussi inclusif dans notre manière de faire les choses et dans notre envie d'accueillir les gens. À ce propos, un festival de marche, ça peut ne pas être inclusif d'emblée et être un peu validiste. C'est pour ça qu'on a aussi acheté une Joëlette, qui est un fauteuil roulant à une seule roue qui peut permettre aux personnes à mobilité réduite de réaliser des randonnées. Et donc voilà, je tenais à le dire à l'antenne, c'est-à-dire que si vous êtes à mobilité réduite et que vous voulez participer à des marches, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire pour réserver cette Joëlette. On se fera un plaisir de vous la réserver. On peut également en emprunter d'autres par le biais de l'association Handicap et Région qui nous en met à disposition. Voilà, pour rendre ces marches les plus accessibles à tous et à toutes, quoi.
Bravo. Et pour les réservations, parce que même si c'est gratuit, c'est conseillé de réserver, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ça va nous permettre quand même d'y voir plus clair dans l'accueil qu'on doit préparer aussi aux personnes. Donc si vous avez la possibilité de réserver, c'est sûr que c'est toujours mieux. Il y a deux adresses mail possibles, le contact@ladeter.org ou reza@ladeter.org, et puis voilà, sinon vous pouvez aussi aller sur notre site ladeter.org pour avoir toutes les informations et trouver l'onglet pour nous contacter. Il y a un formulaire d'ailleurs de réservation très pratique, très facile. Si vous voulez trouver ça sur le site, c'est facile.
Et je mets évidemment tous les liens sur notre site dans un instant. Merci beaucoup, Tom.
Génial. Merci à toi, Ben.
Et avec plaisir, et excellent festival à toi. À très bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Sans transition aucune, on est en plateau avec Edwige, qui est responsable du service accueil et sensibilisation au parc, et Ludmila, qui est chargée de production en scène croisée, pour parler de dialogue de plantes. Ce sont 6 soirées incontournables pour les amoureux et amoureuses des plantes, ça fait rêver. Elle est née d'où, cette idée? Faut bien comprendre que c'est une tournée, en fait, hein.
Ben, elle est née déjà d'une forte envie de travailler ensemble entre le cratère, les scènes croisées et le parc national. On avait déjà eu une première expérience pour nos 50 ans. Et puis, elle est née aussi de toutes ces bouillonnements qui se multiplient autour de notre lien entre nous, humains, et les autres vivants, non humains, et de se dire que ça pouvait être intéressant de d'y penser ensemble. Voilà.
En tout cas, l'idée, c'est d'allier le savoir-faire nature qu'a le parc national et le savoir-faire spectacle que vous avez, vous, les scènes croisées, les cratères.
C'est ça, voilà. On essaye en fait de travailler sur à la fois le territoire en fait des Cévennes et en même temps nous d'apporter en termes organisationnels notre savoir-faire.
C'est les scènes croisées et les cratères qui ont contacté les compagnies. Comment ça s'est passé un peu cette tournée?
La compagnie L'Hiver Nu, nous on l'a contactée parce qu'en fait c'est une compagnie complice avec les scènes croisées, donc ça fait longtemps qu'on travaille avec eux parce que c'est une compagnie locale qui est basée à La Nuée-Jolles et aussi parce que le Dialogue des Plantes c'est une nouvelle création et que nous on est coproducteurs aussi de cette création, donc voilà, nous on a aussi construit avec L'Hiver Nu Dialogue des Plantes. Et en ce qui concerne l'atelier Zaatar, on avait déjà travaillé avec elle pour les ouvertures de saison. Mmh. Voilà comment ça s'est passé.
Donc ça, c'est les deux compagnies qui seront présentes tous les soirs, donc sur les 6 soirées. Et sachant que, même si on ne va pas rentrer dans le détail, parce qu'il y en a beaucoup, il y aura d'autres intervenants le soir. Ce sera quoi? Des conférences, des rencontres, des échanges? Concrètement, c'est quoi?
En fait, ce sera à chaque fois un peu différent. Sur la bambouseraie, donc les 23, 24 et 25 mai, c'est plus sur le mode conférence, même si ça sera vraiment dehors, dans la nature, avec trois regards très très différents, mais toujours sur le lien aux plantes. Je ne sais pas si tu souhaites qu'on en parle maintenant.
Oh, bah oui, on peut y aller comme ça, on fera les lieux un par un et on expliquera après comment vous les avez choisis.
Donc sur ces trois soirées, c'est des regards toujours de personnes qui ont un lien intime et qui ont aussi une réflexion sur le lien aux plantes pour être complémentaires avec les créations artistiques. Donc ça pourra être Thierry Thévenin qui est plus un paysan herboriste et un paysan herboriste militant engagé pour vraiment faire reconnaître et connaître toute cette culture de l'utilisation des plantes et qui a forcément des choses à nous dire et qui aussi a travaillé sur les plantes invasives. Mmh. Et pour nous c'est une vraie question dans ce lieu de la bambouseraie d'Anduze et puis pour le parc c'est un pas de côté puisque on a des positions qui sont pas forcément celles que pourra exprimer Thierry Thévenin, mais justement c'est intéressant. On aura aussi une chercheuse, Climène Perrin, qui travaille sur la création théâtrale contemporaine et son lien à toutes les causes et à tout l'engagement pour l'évolution de notre société par rapport au changement climatique. Mmh. Et puis, on aura aussi un paysagiste, Michel Peña, qui a voulu beaucoup remettre du végétal dans les villes. Et dans les constructions.
Donc voilà, ce sera rencontre, et puis après, ce sera les mini-pièces. C'est quoi, c'est des mini-pièces pour L'Hiver Nu
C'est des courtes pièces, des petites formes théâtrales qui mettent à chaque fois une plante comme personnage principal. Donc chaque petite pièce met en scène une plante différente.
Et exprimer son point de vue un peu sur ce qui lui arrive, comment elle pousse.
C'est oui, voilà, d'exprimer en fait le milieu où elle est, les relations qu'elle entretient aussi avec d'autres végétaux, et voilà, de questionner un peu aussi par là ce que l'humain en fait entretient avec son milieu.
Mmh. Avant qu'on continue les autres lieux, comment vous les avez choisis ces lieux?
En fait, on a voulu vraiment ancrer cette tournée dans le territoire et dans le sujet qui était les plantes. Donc on a à chaque fois proposé aux scènes croisées et au cratère. Le cratère avait un vrai souhait que ce soit la bambouseraie, mais on a pu aussi vraiment chercher des gens avec qui le parc national travaille et qui ont un lien avec le végétal. Mmh. Et c'est pour ça que il y aura une soirée à l'Espinasse où c'est un lieu d'accueil activités de création multiples, mais il y a notamment une châtaignerie, un verger, et donc il y a plusieurs, au travers de plusieurs pratiques, il y a un vrai lien au végétal. Donc voilà, l'espinasse pourra nous parler de ce qu'il fait sur la châtaigneraie, de la châtaigneraie et le changement climatique. On aura une autre après-midi à Solperrières,
à Vébron,
chez des amoureux de leur territoire et aussi des végétaux, puisqu'ils cultivent des tulipes, puisqu'ils cultivent toutes sortes de plantes et de plantes médicinales. Et puis on aura aussi une après-midi à la miaillerie de Vielvic.
Alors, à Saint-André de Capsaise, je ne vois pas du tout. C'est...
Alors, c'est près de Villefort, c'est tout au bout de la Lozère.
C'est bien pour ça.
Et qui, eux, sont des apiculteurs et donc, forcément, vivent avec les plantes, au rythme des plantes, et les observent. Et donc, à chaque fois, chaque soirée ou après-midi, aura son identité, l'identité du territoire, l'identité de ceux qui nous accueillent, qui va faire lien avec les propositions artistiques. Voilà.
C'est fou parce qu'on vient de parler du festival La Déterre et voilà, et à chaque fois c'est exactement ça, c'est du partage, ce genre d'événement, c'est important pour vous.
Ouais. Ben, c'est vrai que on est vraiment convaincu que de multiplier les regards, de mettre beaucoup d'humains aussi dans le fait qu'on soit accueilli chez des gens, forcément ça contribue à s'interroger d'une façon réfléchie ou pas, mais sur notre relation à la biodiversité, sur notre relation au lieu, sur notre relation aux autres, et que tous ces regards multiples sont.
Vous avez contribué aussi aux moyens techniques, ou alors c'est le cratère là qui gère comment ça va se passer, ou alors finalement ce sera des choses totalement acoustiques et...
Alors, pour la partie technique, pour la bambouserie, pour le lieu de la bambouserie et pour les dates fin mai, c'est plutôt du coup les compétences du cratère et la technique du cratère qui s'en occupe. Et nous, on se concentre plus sur les dates qui auront lieu donc début juin côté Cévennes-Lozère. Et donc, après, techniquement, c'est très léger parce qu'il y aura des amplis portables pour permettre en fait d'avoir aussi de la proximité avec le public aussi. Parce qu'on est par exemple sur la ferme de Solperrières, on est en cœur de parc, et donc on doit penser aussi qu'on peut pas se permettre de mettre le son à fond, et qu'on doit aussi respecter le lieu où on est. Voilà, donc on essaie de conjuguer avec le territoire et le lieu où on est. Mmh. Voilà.
Sinon, au niveau des infos pratiques pour les tarifs.
Alors, pour les tarifs...
Si, il y en a. Hein.
oui, alors on est sur les mêmes tarifs avec le cratère. Il me semble qu'on est sur 12, 10, 6. Mmh. On a la possibilité, voilà, pour ce qui est des dates début juin, de réserver sur le site internet de Seine-Croisée. Et on aura une billetterie légère sur place. Voilà. Et puis après, pour la bambouserie, je pense que c'est aussi au cratère de pouvoir réserver et d'avoir une billetterie aussi sur place.
En tout cas, à part le dernier lieu que je ne connaissais pas, les trois autres lieux sont absolument merveilleux. Et c'est, ça a été simple, en fait, de les convaincre, entre guillemets, d'ouvrir leurs portes.
Oui, on a rapidement... Enfin, voilà, je pense que tout de suite, on a... réussi à convaincre. Il fallait aussi trouver les disponibilités, mais voilà. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'on est à chaque fois chez des gens qui ont des produits qui sont dans la marque Esprit Parc National des Cévennes, et que pour nous c'est aussi une façon de faire ensemble des choses sur ce territoire, et que les gens qui ont la marque vivent quelque chose avec le parc, et voilà, qu'on le fasse ensemble. Et on a parlé des conférenciers, mais il y a aussi deux temps, donc à l'Espinas et à Vielvic, où dans ces regards il y aura ceux des agents gens du Parc national des Cévennes qui pourront soit témoigner de ce qu'on fait, par exemple, autour de la châtaigneraie à Solperrière, à l'Espinasse, ou faire une découverte botanique avec là des connaissances plus scientifiques et naturalistes à la miellerie de Vielvic.
Est-ce très complet? Attardons-nous un instant, puisqu'on en a dit un mot, mais l'atelier Zaatar, c'est comme ça qu'on dit?
Oui, c'est ça.
Alors exactement, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'ils vont proposer?
Alors c'est un duo de jeunes filles qui animent des ateliers autour du paysage, selon le territoire où elles sont. Et là, pour ces soirées après-midi de Dialogue des Plantes, elles proposent une dégustation culinaire sur les végétaux. Donc c'est une approche un peu décalé pour goûter son paysage. Donc il y a un petit récit, une explication de comment elles ont cueilli certaines plantes, comment elles les ont transformées, comment elles les ont mises en valeur. Et donc elles proposent sur des ardoises cette petite proposition culinaire.
On en salive d'avance. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires que les Seine Croisée Cratère sur cet événement, ou alors...
Alors pour le, il y a les hôtes, du coup les co-accueillants. Pour le relais de l'Espinasse, c'est l'association Et puis Demain avec qui nous on travaille sur la saison déjà, donc avec Véronique Nange qui est coordinatrice. Et puis après c'est Evelyne et François Roux de la ferme Solperrière et Catherine de la rue du Camp qui est à la miellerie de Vielvic. Donc qui sont aussi en fait des co-organisateurs parce que ils nous accueillent chez eux.
Et puis la bambouseraie d'Anduze qui nous accueille dans leur très beau jardin.
Ah oui, ça c'est pour le moins qu'on puisse dire, c'est absolument magnifique. Dialogue de plantes, 6 soirées incontournables pour les amoureux et les amoureuses des plantes. Pour réserver, pour avoir toutes les infos, la programmation complète, c'est seinecroisee.fr. Elle est sur le site du Parc National.
Donc il y a toute l'information aussi sur le site du Parc National des Cévennes et sur nos réseaux sociaux, et pour la bambouseraie sur le site du cratère.
Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.
Edwige, responsable du service accueil et sensibilisation au parc, et Ludmila, chargée de production, jeune chargée de production, ça va, tout se passe bien?
Super, tout se passe bien.
Au Seine Croisée de Lozère, nul doute qu'on se reverra très vite. Merci beaucoup, excellente journée à toutes les deux. On se retrouve avec le reportage de Léo dans un instant, on fait une pause musicale. Ils sont venus à Mende l'année dernière, ils ont eu un succès de dingue, j'avais jamais vu autant de monde à Mende. La fanfare s'appelle Meute, le morceau s'appelle Sail. La fanfare Meute sur Radio Martinez 107 FM. On est en direct. Léo est allé interviewer Alexandre Ribeiro, qui est un apiculteur d'origine brésilienne installé en Lozère depuis 6 ans. C'est la première interview en partenariat avec Acomcom, et les producteurs qui seront présents au marché nocturne de Saint-Enimi cet été. L'occasion pour moi de saluer Thomas qui nous a mis en contact avec ces différents agriculteurs et paysans. On écoute tout de suite le reportage de Léo.
Dans un premier temps, je vous demandais si vous pouvez vous présenter, qui êtes-vous, votre âge
Je m'appelle Alexandre Ribeiro Moreira, j'ai une origine brésilienne, où je suis arrivé en Lozère depuis 6 ans. Je suis apiculteur, je me suis formé avec un grand lozérien qui s'appelle Roland Baudet, qui habite au Bondon. J'ai fait un grand changement de vie à 37 ans. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Donc ça te dit que j'ai 6 ans dans le coin et j'adore la Lozère parce que mes parents au Brésil étaient des paysans aussi. Moins froid qu'ici, bien évidemment, mais toujours au côté paysan, agricole et tout ça. Et là, j'adore, comme j'ai dit encore une fois, la Lozère, les gens alternatifs, les gens qui arrivent de la ville comme moi-même ou pour habiter la campagne. Je trouve que c'est très important, ça réfère et j'adore la Lozère, quoi.
Vous êtes arrivé il y a combien de temps ?
6 ans. Je suis arrivé, j'avais 39 ans pour vraiment m'installer. Mais je connaissais la Lozère déjà depuis 9 ans, à peu près ça.
Vous êtes lancé dans l'apiculture directement ou...
En fait, ma installation à Lozère, c'était progressivement. J'ai travaillé en ville, j'ai travaillé pour des banquiers, une famille anglaise qui monopolise beaucoup la finance au monde, entre guillemets. Et un jour, j'en avais marre, j'ai voulu trouver un sens à ma vie encore une fois. Et en revenant en Lozère, j'ai connu encore une fois Roland Baudet, je connais Nicolas Lefebvre qui beaucoup m'a aidé à m'installer, m'apprendre l'apiculture, m'a appris beaucoup de choses qui ont toujours beaucoup m'aidé dans mes installations. Et peu à peu, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à voir 10 ruches, 25, 50. J'ai décidé de m'installer, j'ai demandé la DGA, j'ai fait toute l'école apicole. Et là, je suis là depuis 6 ans.
Vous avez toutes vos ruches en Lozère ou elles sont placées à divers endroits en France ?
J'ai la majorité, c'est comme ça. Je suis dans l'apiculture, je fais l'apiculture transhumante. C'est-à-dire que l'hivernage, j'ai les sont dans le Gard, la vallée de Sèze. On va dire Bessège, Saint-Ambroise, Barjac. Pour l'hivernage, la température c'est plus clémente en comparaison à la Lozère. Et puis, à partir, on va dire, du 10, 15 mai, je commence à transhumer tout en Lozère. Pour faire le miel de Cossa, le miel de Montagne, à Finelle, de Cévennes au Fomore, le Châtaignier du côté de Cévennes. Et donc, du coup, je garde pendant la saison en Lozère. Et à partir du 10, 15 septembre, j'ai des récents dans le Gard.
Votre miel, vous le choisissez, c'est-à-dire vous choisissez plus ou moins les fleurs que vont butiner vos abeilles ou vous les laissez totalement libres
En fait, je sais à peu près les floraisons. C'est-à-dire que normalement, selon les années, le cosse, ça démarre à partir du 10, 15, 20 mai. Donc, je cible à peu près cette date dès que je sois sur le cosse. Par exemple, le châtaignier, je sais que c'est à partir du 15 et 16 juin, selon les années, bien évidemment. Et du coup, je transhume un peu avant, une semaine, 5 jours avant, qu'il a pu s'abutiner majoritairement les châtaigniers. Et donc, je cible les mielés selon la saison et le temps de floraison.
Votre miel, si on désire l'acheter, le trouver, on peut aller où ?
Je vends pour les 3 intermarchés en Lozère, à Florac, à Banassac et Intermarché. Et puis, je travaille avec 2 magasins qui sont hôtels à Saint-Rémy-de-Provence, qui m'achètent le miel de lavande. Et je travaille avec un magasin dans le sud qui m'achète énormément du miel de lavande. Et quand j'ai des plus, je vends pour en gros. En quantité, et après je vends en détail, je fais en sorte, parce que comme je viens de m'installer, on fait beaucoup d'investissements et le revenu c'est très faible, et donc il faut que je vende, et je travaille, j'ai 2 enfants, j'ai une vie aussi, donc il faut que je vende, mais majoritairement je vends au Intermarché, à Saint-Chély, à Banassac et à Florac. Aussi, pendant la saison, je fais le marché de Saint-Anémie. Qui c'est très intéressant. Il y a un beaucoup de passages d'étrangers, de touristes globalement. Et j'ai un petit avantage qui souvent vient des gens hollandais, même d'allemands, même d'américains que j'ai eu, même des brésiliennes très connues au Brésil, qui elles sont passées ma journée. Donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir parler parce que je parle un petit peu du français que j'ai appris à la rue. Hein. Je suis jamais allé à l'école. En revanche, l'anglais, je suis allé en école, j'ai vécu 2 ans aux États-Unis et j'ai vécu beaucoup de temps en Angleterre. Mais le français, ce n'est pas facile. Hein? J'ai beaucoup de mal, j'ai l'accent que je garde, que c'est ma racine. J'adore celui-là. Et le marché de Saint-Denis, je trouve que c'est un très bon marché, que j'ai fait beaucoup de connaissances territoriales. Les gens ils commencent à savoir qui je suis. Ça me permet aussi de vendre parce qu'il y a une belle dynamique, surtout au début jusqu'à la fin, avant le 15, il y a une belle dynamique. J'espère que cette année encore, ça va développer encore plus parce qu'apparemment, il y aura de musique, de concerts, il y aura autre dynamique, une jeunesse qui arrive. Et ça, pour moi, je trouve que c'est merveilleux, une ouverture d'une entrée ou une sortie du territoire. Lieu de laisser enfermer la Lozère, qui est un pays magnifique. Hein. Les gens qui viennent d'extérieur, chaque fois quand je parle, tout le monde me dit « c'est génial ici, la verdure, les animaux, tout ça », et on ne se rend pas compte. Hein. Nous habitons dans un parc national, très très beau, une zone de montagne, les gens très différents et ma culture magnifique.
Est-ce que vous travaillez seul avec vos abeilles ou vous êtes en collaboration avec d'autres personnes? Comment vous fonctionnez là-dessus?
Selon l'étape de l'année. Par exemple, au début de l'année que j'ai fait des élevages de rennes, j'ai travaillé avec mon copain moi, qui s'appelle Nicolas Lefebvre, c'est un grand apiculteur aussi. Et il m'apprend énormément de choses et on s'entraide. Et puis le moment de transhumance, que tout le monde à peu près fait des transhumances tout seul, et je transhume chaque fois minimum 40 à 45 ruches. Et donc, majoritairement, je travaille tout seul. Et des fois, j'ai un ami qui vient m'aider, ou un copain qui vient m'aider. Il y a toujours une trade entre nous.
Comment vous êtes implanté dans le territoire Lozère? Vous avez vous collaborez avec d'autres personnes localement, d'autres agriculteurs dans d'autres milieux?
Oui, j'ai mon copain qui m'a formé. Lui, il est lozérien. Il m'expliquait à peu près où vous allez, où tu ne dois pas aller, les fleurs. Il a une grande maîtrise à biodiversité d'un territoire et ailleurs. J'ai des connaissances avec un grand apiculteur qui est déjà en retraite, qui s'appelle Philippe Thomas, du Pont de Montvert. Et peu à peu, je suis une personne sociable, né? Comme j'ai dit, je suis brésilien, je parle, je demande d'aide et c'est j'ai pas d'honte à demander. Parce que quand tu connais pas et tu n'as pas d'ici, tu n'as pas de famille, c'est difficile. Au début, le jeune ne te connaît pas, donc qu'est-ce que tu veux, que tu ne veux pas, est-ce qu'il va rester? Mais aujourd'hui, j'ai un peu de connaissances et les portes sont plutôt ouvertes pour moi et je suis très content de ça.
On voit derrière vous beaucoup de cadres pour vos ruches. Vous les faites vous-même, vos ruches, vous les faites vous-même?
Je l'achète. En fait, les cadres, j'ai déjà achète montés parce que je n'ai pas beaucoup de place pour monter. J'ai des enfants qui vont venir l'hiver aussi. Et du coup, j'achète les cadres montés. Et les ruches, j'achète un kit, c'est-à-dire que je les monte, je perce, je remonte tout, fais la peinture, qu'ils soient moins chers. Ça, c'est mon travail d'hiver. Et du coup, j'achète une boîte qui s'appelle La Montagne Noire à Carcassonne, côté de Carcassonne, en bas, dans le sud.
Ah, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir apiculteur? Vous y avez peut-être déjà un peu répondu, mais...
En fait, l'apiculture, et la première part, c'est que j'ai voulu faire un grand changement de vie. Bien évidemment, comme je viens d'une famille pauvre, il faut travailler. Ma base dans ma famille, c'est le travail. En venant à Lozère, qui n'a encore pas cette dynamique du travail et tout ça, j'ai eu la chance de faire connaissance, encore une fois, avec un grand apiculteur. Et lui, il me fait connaître le monde des abeilles. Et comme je suis une personne plutôt organisée, il y a une organisation dans les colonies d'abeilles. Et peu à peu, j'ai commencé à prendre goût. tu vois des abeilles, comment ça marche, du toucher des abeilles, voir, et ça, ça commençait à fasciner de plus en plus. Où j'ai commencé à voir des lectures apicoles, et de plus en plus, j'ai commencé à savoir un petit peu, d'avoir des connaissances, et toujours, je suis très curieux de savoir ce qui se passe. Jusqu'à un jour, j'ai dit, bon, tiens, je vais faire une école, je vais demander. J'ai passé beaucoup de temps à étudier, parce que vous sentez dans mon accent que je ne suis pas français, il fallait passer maths et français, tout ça. J'ai réussi des bonnes notes pour entrer dans l'école, apicole. J'ai réussi à passer, j'ai eu le diplôme apicole pendant, j'ai fait l'école pendant quasiment un an, des stages, les transhumances, tout ça. Mais la technique que j'ai appris avec mon maître de stage, avec un ami qui est Nicolas Lefebvre, en demandant à Philippe Thomas, demandant des réunions apicoles avec le syndicat, avec l'ADA, et le j'ai m'expliqué, je faisais des bêtises, je note, j'ai amélioré de l'année d'après, et peu à peu j'ai rentré de cela. Aujourd'hui, je suis très content qu'aujourd'hui je passe quasiment de 300 colonies, on y va dire. Bien évidemment, selon la saison, l'année, ça commence à baisser le nombre, qu'on commence à supprimer des ruches faibles, des ruches qui ça marche pas. C'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Et dans le monde apicole, j'ai découvert beaucoup de choses qui c'est la vie en commun avec des abeilles, surtout la nature. Vous voyez, vous avez plus de temps à observer. Notre temps de récolte, tout ça, c'est très chronophage. Il faut que je vais vite. Je peux travailler en 2 jours, quasiment 30 heures.
Et 300 colonies d'abeilles, ça représente quelle quantité de miel?
Normalement, j'ai 300 colonies. En revanche, en production, j'ai à peu près 230 quelque chose, parce que je n'ai pas assez de os. En fait, j'ai fait beaucoup plus. Cette année, j'ai un problème de riche, on va dire. J'ai fait beaucoup plus de ça. Et tout ce qui soit faible, qui ça ne me convient pas, je le supprime dans le cheptel, je viens avec l'autre. C'est-à-dire que j'ai toujours un nombre plus important de colonies et le nombre moins important, on va dire, de colonies pour production. Donc je travaille colonies, on va dire, en réserve. Si j'ai un problème, cette colonie de réserve, elle va devenir une colonie de production s'il y a un problème avec les colonies de production.
C'est quoi les majeurs problèmes que vous rencontrez aujourd'hui, que ce soit dans votre entreprise ou avec les problèmes que subissent les abeilles au quotidien?
Le problème des abeilles, je pense que c'est globalement quelque chose que tout le monde est en train de sentir. Le changement climatique, les finances, aujourd'hui c'est très difficile à trouver un terrain pour s'installer. J'ai aussi 2 enfants qui vont venir, donc je ne peux pas aller n'importe où, il faut que ce soit quand même au côté d'école, tout ça. Donc des choses personnelles, la réalité personnelle. Niveau abeilles, si aujourd'hui on ne peut pas dire que telle date ça va mieler pour avoir du miel, parce que nous avons des intempéries, nos moments qui normalement fait chaud, il y a du vent, nos moments qui n'a pas. Et donc le problème majeur pour moi, c'est le changement climatique. Des fois, il fait hyper chaud. Par exemple, l'année dernière, nous avons eu des températures que on ne connaissait pas. Pas beaucoup de pluie, surtout. Il y a du moment qui pleut énormément et vice-versa. Mais ça, c'est global. On sent de plus en plus. Et au niveau personnel, au niveau apiculteur, c'est la finance, né? Parce que l'économie, je pense, qui va pas très très bien. Et il y a une dynamique qui est emploi, d'accord, mais niveau social, ça devient difficile. Le miel, ça reste toujours un produit, entre guillemets, de luxe. C'est-à-dire que c'est assez cher pour ma famille et tout ça. Donc on fait un très bon miel de qualité, ici en Lozère, sans pesticides, tout ça. Normalement, c'est une très bonne qualité et on fait analyser tout ça. Mais souvent, c'est la météo qui nous embête au niveau apicole Et niveau personnel, c'est le coût d'aujourd'hui, ça devient de plus en plus cher. La vie, normalement, c'est très difficile.
Et la météo, le changement climatique, ça va beaucoup du coup affecter la production de miel, mais ça va aussi affecter les ruches en elles-mêmes. Est-ce qu'elles risquent de mourir, de disparaître, vos abeilles? Est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que vous avez des grandes quantités d'abeilles qui disparaissent à un point donné, à un moment donné?
J'ai eu une année, en 2020, c'est-à-dire que j'ai des ruches qui étaient du côté de Cévennes. Peut-être c'est des maladies entre les abeilles. J'ai eu un moment de famine, mais comme je n'ai pas beaucoup, donc je reste toujours à derrière pour faire un nourrissement qui n'est pas vraiment écolo. On travaille avec du sirop, hein, on ne peut pas cacher ça. Et du coup, je n'ai pas personnellement pas beaucoup de pertes. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu beaucoup de pertes. J'ai eu des pertes importantes ciblées dans un seul emplacement, c'est-à-dire que j'avais 45 colonies. Et peu à peu, ça commençait à achever, que quand je suis descendu d'un lugar, il ne me restait que 8 colonies. Ça te dit que j'ai eu une grande perte, mais encore une fois, c'était vraiment un emplacement. Il y a beaucoup de gens qui disent que les gens ne traitent pas à côté, parce qu'arrive au moment de la saison, il y a énormément de colonies autour, il y a énormément de gens, on ne sait pas qui, comment les gens traitent ces colonies, donc il faut traiter, il faut rester derrière. On ne peut pas non plus généraliser, quoi.
Vous avez déjà eu des conflits avec des agriculteurs proches de vos colonies ou des gens qui se plaignent de vos colonies ou vous qui avez un problème avec je sais pas, un traitement dans un champ voisin, quelque chose?
Pour l'instant, non. La Lozère, nous sommes très bien ici là. Comme c'est une zone agricole, je ne comprends. Le problème, entre guillemets, que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les abeilles. Donc je préviens toujours mes propriétaires, écoute, j'arrive parce qu'il y a beaucoup, ils ont peur, ils peuvent avoir l'allergie, ils n'aiment pas se faire piquer, tout ça. Problème majeur avec les gens, personnellement, je n'ai jamais eu. Je m'entends plutôt bien globalement avec tout le monde, je respecte, je me fais respecter et je pense que c'est vraiment la chose commune pour tout le monde. Si tout le monde se respecte et je ne fais pas plus que travailler et manger, hein. Donc j'arrive, je dis la vérité.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui fait un bon miel?
Le bon miel, je pense déjà avoir la bonne zone. Donc la bonne zone, la Lozère, hein? C'est-à-dire qu'il y a des apiculteurs qui font beaucoup, beaucoup de routes, où j'avais mon formateur qui habitait dans le Var, à Toulon exactement, et lui, il allait jusqu'à quasiment Grenoble, dépasser Grenoble pour faire un miel. La Lozère, nous avons zone de montagne, nous avons le miel du châtaignier, nous avons monofloreux, qui c'est le miel de Cosse. Nous avons toutes les fleurs, qui c'est le miel de Cévennes, avec un goût particulier qui a un pot de châtaigne dedans. Il n'y a pas beaucoup de monde. Pas loin d'ici, à une heure et demie de route, je peux faire de temps en temps le printemps, le miel du printemps. Je peux faire aussi le miel d'acacia. Par exemple, l'année dernière, j'ai réussi à faire. J'espère que cette année, j'arrive à faire. Donc, j'ai un vieux camion, hein, un ancien camion. Donc, je ne veux pas trop loin non plus parce que niveau mécanique. Donc, je reste toujours dans la zone de 2 heures et demie de route de chez moi. Donc, on peut faire, comme encore une fois, du très bon miel. Diversifier du miel pas trop loin. C'est-à-dire que j'ai fait 6 gammes de miel. C'est-à-dire que j'ai fait toutes les fleurs de Cévennes. J'ai fait le châtaignier. J'ai fait le miel de montagne, j'ai fait de la lavande dans le Gard, bien évidemment. J'ai pu faire même le printemps dans le Gard et l'acacia. Donc, c'est pas loin de la zone de chez moi. Donc, c'est 2 heures et demie, hein, pas plus.
Une question sur les ruches en soi, c'est-à-dire comment, quand vous avez des pertes ou que vous voulez faire des nouvelles ruches, comment vous remplissez une ruche d'abeilles? Vous allez chercher les abeilles ou vous les faites se reproduire?
Là, c'est la chose que j'aime le plus au niveau apicole. C'est-à-dire que j'ai appris à faire les élevages. C'est-à-dire que j'ai appris, c'est moi, on va dire, la base d'un apiculteur. Il faut que vous soyez autonome à garder son cheptel, le nombre de ruches. Donc j'achète des souches, hein, la loi de Mendel, je garde la souche, je prends ces larves, je les fais introduire, c'est bon, c'est un peu technique, c'est long à expliquer, mais les apiculteurs comprennent. Donc j'ai fait des cellules, et du coup je prends de mes ruches plus grosses, que je puisse diviser, c'est-à-dire qu'en divisant, c'est qu'on doit ruches la plus de 6 cadres, 8 cadres, je peux les diviser. Je prends 3 cadres du couvent, je prends de cela, je les ferme, je ramène à 3 km d'où j'ai le prix, cela. Et 10 jours après, je viens avec mes cellules, où j'ai fait de nouvelles reines, les reines d'année, très dynamiques. Mais ça, c'est le, encore une fois, c'est la chose la plus technique dans l'apiculture. Et la chose que j'aime plus, qui vous ouvre énormément des abeilles, vous voyez exactement, et vous gardez vraiment les yeux. Et l'apiculture, comme j'aime beaucoup écouter, j'ai entendu un gars dire, l'apiculture c'est beaucoup d'observation. Donc vous regardez l'entrée, s'il y a du pollen, c'est une bonne dynamique, et vous regardez l'entrée, le volume des abeilles, sa façon d'être, tenir le cadre. Et donc ça, c'est beaucoup d'observations qu'on prend dans le tas. Tous les jours, on regarde. Le fait d'avoir l'opportunité de travailler avec des grands apiculteurs qui avaient énormément de colonies, donc ça me donnait l'opportunité d'ouvrir, de regarder, d'apprendre, d'écouter. Et donc ça m'a ouvert beaucoup de portes pour le futur. Voilà, moi j'ai deux formats de ruches. J'ai un format d'Adam où je viens d'avoir, là j'ai une quarantaine, à peu près ça, de ruches d'Adam que j'ai commencé à remplir cette année. Avant j'ai travaillé avec un seul format, c'est un format long straw. Une, c'est plus facile et plus légère de transhumer, comme je travaille souvent tout seul, donc il faut que je porte au bras, j'ai pas de grue, ou rien du tout. Donc c'est-à-dire que c'est un format que ça me convenait, j'ai appris à travailler, et pour moi c'est plus facile. En revanche, là maintenant, comme je commence à augmenter mon comme cheptel, et je vends maintenant des essaims, donc j'ai parti un peu pour les formats long straw, pour développer les deux gammes du format. Différence entre les deux formats, c'est le volume, c'est-à-dire que long straw c'est plus lourd, il y a un volume plus important d'abeilles, il y a un volume plus important du miel, né? Normalement ils ont plus de place, ils ont beaucoup plus de réserves et tout ça. Qui le format long straw, la légende, né? Les gens ils disent que c'est que pour les professionnels, mais je connais pas mal de très très beaux et gros professionnels qui travaillent avec le dedans. Moi personnellement, je travaille plutôt avec long straw.
Ça pèse combien plein et vide, une ruche?
Vide, je ne peux pas vous dire exactement. Je suis persuadé, c'est selon d'où elle vient. Un jour, j'ai un souvenir que je suis allé faire ma transhumance avec un copain à moi. Et on a pris ma ruche d'Adam. On n'a pas arrivé vraiment portée à deux. Et elle était minimum 50 kg, quoi, selon les années. Il y a d'autres années qui sont très légères, qui n'ont pas de réserve, tout ça. Mais environ, c'est entre un bon 30 kg, 35 kg, selon le moment de la saison. Aujourd'hui, j'ai même l'opportunité, comme je commence à avoir un volume assez important des colonies, tout ça. Donc, mes extractions du miel, ça me donne aussi la cire, où je peux faire mes feuilles de cire moi-même et tout ça. Arrive au moment de la saison, normalement on fait le mois d'octobre, je fonds la cire, je nettoie, né, je l'utilise pour que ce soit plus propre, ou je fais des feuilles à gaufrer. C'est là que je vais utiliser dans les cadres. Quoi. Et en utilisant ça dans les cadres, je suis quasiment sûr que ma cire vient de ma exploitation. Normalement, on n'a pas beaucoup de problèmes à niveau pesticide parce que je n'utilise pas du truc mauvais pour les abeilles. Et ça aussi, niveau financier, ça m'aide beaucoup parce que le coût du kilo, je pense que j'ai regardé la dernière fois, c'était quasiment 21 € le kilo selon le magasin que vous allez. Ils ne connaissaient pas du tout la procédure. Ça là, c'est de chez moi, c'est un cire très clair, vous pouvez regarder. Et c'est très bien, les abeilles tirent bien, les abeilles elles se portent bien. Qui j'ai déjà eu du mauvais cas, qui j'ai acheté au début du cire ailleurs. Et ce moment que j'ai acheté du cire, les abeilles elles avaient du mal à garder cette cire et de tirer. J'ai trouvé qu'elles n'aimaient pas. Et je ne peux pas vous dire que c'est fait d'aimer ou que c'était mauvaise la cire, mais je trouve que ça là, ça m'optimisait beaucoup, beaucoup plus. Et au niveau financier, c'est beaucoup plus avantageux aussi.
Comment c'est fabriqué? C'est moulé ou c'est...
Écoute, je ne sais pas exactement. Je sais que je fonds en bloc. D'accord. On doit envoyer un gaufreur qui fait la feuille. Et là, il est fond encore, il passe dans une machine comme une imprimante, on va dire ça, et il sort des petites feuilles comme ça là. Le processus, je ne connais pas parce que je n'ai jamais allé dans un magasin ou dans une industrie comme celui-là, mais je sais que c'est à peu près ça. Le bloc, il devient cette petite feuille. Ça fait 2 ans que moi et mes copains ont fait un traitement qui sont des apiculteurs en bio. Qu'ils font, c'est l'acide oxalique par sublimation. C'est-à-dire qu'ils ont un appareil qui s'appelle la Sublimox. Il monte en température, je ne sais pas combien. Et donc, du coup, ça me permet aussi de faire un traitement contre le varroa, qui c'est une maladie, né, c'est un carien qui a des colonies, qui a un gros problème avec cela. Et j'ai fait un protocole différent, c'est-à-dire que j'ai fait des essais. Quand je vois qu'ils pondent, qu'il y a des couvents ouverts, j'utilise le Sublimox qui j'ai une optimisation d'un traitement. Nous ne sommes pas à l'abri, mais fait 2 ans, 3 ans qu'on travaille comme ça et ça marche super bien.
Et je souhaite un grand merci à Alexandre Ribeiro pour nous avoir accordé cette interview.
Et un grand merci à toi Léo, ouais, super intéressant. Et voilà, c'est la fin de cette matinale et on se retrouve mercredi. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. Portez-vous bien. À mercredi, ciao.
Donc il faut que je cause. Une escapade en... Oh. Putain, vu que tu me fais faire ça sans casque ou sans rien. Ah là, c'est vachement mieux. Une escapade en pays cévenol? Écoutez Radio Bartas. Mais pas que.
Belle, riche, essentielle, engagée. Radio Escapade, bien sûr.
Un peu plus dans le sud, les copains d'escapade, radioescapade.org. Radio Bartas, 107 FM. Ou bien sûr, toujours, radiobartas.net.